comme vous l'avez mentionné, le maire de New York. Mais pour Trump, là, il a étiqueté ça des communistes. Alors, tout ce qui est un peu à gauche, semble-t-il, du Parti républicain aux États-Unis, c'est des communistes. Mais bon, c'est une étiquette qu'il met là-dessus. Est-ce que, évidemment, il y a sûrement encore quelques communistes aux États-Unis, comme il y en a sûrement au Canada aussi. Mais disons, on doit pouvoir les compter sur le doigt d'une seule main.
Donc, Donald Trump se sert de ceci pour tenter justement de sauver les meubles pour les élections de mi-mandat du mois de novembre, parce que dans le conflit, et là, c'est là qu'on va embarquer dans votre expertise, dans le conflit avec l'Iran, il n'y a rien présentement qui roule en sa faveur.
Bon, d'abord, actuellement, il y a une pause là, des négociations, parce que bon, c'est les funérailles là, de l'ancien dirigeant là, iranien de la République islamique d'Iran. Alors, semble-t-il qu'il n'y a pas de négociation en ce moment. Je présume que, théoriquement, ces négociations devraient reprendre là après la suite de ces cérémonies. Mais bon, il ne faut pas s'attendre, je pense, à des résultats rapides. Ça va être très long. Il y a beaucoup d'enjeux très importants. D'abord, il y a la question du détroit d'Ormuz. Les Iraniens voudraient imposer des droits de passage. Les Américains s'y opposent et aussi beaucoup d'autres pays. Puis bien sûr, il y a toute la question du nucléaire qui est encore beaucoup plus compliquée et qui risque de traîner. Là, je pense que les négociations étaient prévues pour 2 mois, 60 jours, mais ça va sûrement être renouvelé à plusieurs reprises parce que je ne pense pas, qu'en tout cas à ce stade-ci, je ne vois pas l'intérêt ni des Américains ni des Iraniens et encore moins des pays de la région de reprendre la guerre. Alors, on peut s'imaginer que ces 2 mois vont être renouvelés souvent pour permettre au cessez-le-feu de continuer et aux négociations de se dérouler. Mais ça va être très compliqué, ça va être très long. Puis on n'a aucune idée non plus si ça va déboucher sur quelque chose de concret, surtout avant les élections de mi-mandat là, de Trump, là, qui va sûrement jouer dans le calendrier des négociations pour les Iraniens.
Pendant ce temps-là, on est un petit peu mélangé avec le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'il est ouvert ou non? Moi, dans les dernières nouvelles que j'ai, c'est très difficile pour les navires de passer.
J'ai l'impression, on en parle moins, là, mais généralement, quand on n'en parle pas, c'est qu'il y a quand même, des choses qui se passent. Alors, je soupçonne que le trafic est probablement ralenti, mais il a quand même repris. Il y a eu un bateau qui avait été attaqué parce que ça semble-t-il qu'il ne suivait pas le trajet que les Iraniens voulaient qu'ils suivent. Suite à ça, les Américains ont bombardé des cibles militaires dans la région du détroit. Mais on n'a pas entendu parler de grand-chose depuis. Alors, moi non plus, je ne peux pas vous confirmer là, que le trafic a repris. S'il a repris, il n'a sûrement pas repris au rythme qui existait avant le conflit, mais je soupçonne que les navires recommencent à passer, même si c'est à un rythme beaucoup plus limité qu'auparavant.
Ah ben c'est très positif ça, ce que vous nous apportez comme information. François Larochelle, vous êtes ex-diplomate du Canada au Liban. Parlant du Liban et d'Israël, est-ce que c'est là un peu le bas-blesse de cette entente-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire confiance au Hezbollah et à Israël de ne pas se bombarder pendant les négociations? Moi, ma confiance est à zéro, toi, Pascal?
Non, j'ai pas beaucoup confiance.
Vous qui avez été au Liban, votre niveau de confiance est où sur une échelle de 10?
Je ne sais pas jusque-là. Je vous dirais que pour l'instant, quoi qu'aujourd'hui encore ou hier, là, il y a quand même les Israéliens ont tiré sur une voiture et ont tué 4 personnes, mais ça s'est beaucoup ralenti. On n'assiste pas du tout là, au niveau de bombardement là, auquel on assistait là, il y a quelques semaines. C'est sûr que les Israéliens continuent d'occuper ce qu'ils appellent leur zone de sécurité. Là. Ils ne sont pas partis de là. Mais en termes de bombardement, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup diminué. Bon, combien de temps ça va durer, je ne le sais pas. C'est assez évident que les Américains ont fait des pressions sur Netanyahou pour qu'il se calme. Et les Iraniens ont dû faire la même chose avec le Hezbollah. Est-ce que tout ça va durer? Ça prend qu'une seule des deux parties pour reprendre les combats, pour que tout recommence. Mais pour l'instant, ça semble s'être calmé. Mais pour combien de temps, tout ça reste à voir. Mais c'est clair que les Israéliens sont toujours présents sur le sol libanais. Ils ont même fait des attaques il y a quelques jours en Syrie, où ils occupent là aussi une zone. Donc, de ce côté-là, il y a pas un, il y a une diminution des combats, mais la présence israélienne est toujours là.
Vrai ou faux, j'ai entendu ceci dans certains médias, que cette pause-là, justement, de bombardement et le fait que le blocus a été retiré sur les ports iraniens permet à l'Iran de recommencer à financer davantage le Hezbollah?
Ça, je ne sais pas, mais c'est clair que les Iraniens et le Hezbollah voulaient lier les deux questions, c'est-à-dire que on règle les négociations. Dans les négociations entre les Américains et les Iraniens, on inclut un volet libanais, parce que c'est clair que le Hezbollah est soumis à l'influence iranienne et que la seule partie qui peut limiter ou mettre un frein aux actions du Hezbollah, c'est les Iraniens. C'est surtout pas le gouvernement libanais. Donc, pour l'instant, les choses sont liées parce que les Iraniens voulaient justement aussi arrêter les attaques israéliennes, mais en retour, ils auraient accepté là, de faire pression sur les Hezbollah pour qu'ils arrêtent aussi d'attaquer Israël. Alors, pour l'instant, il y a comme un cessez-le-feu. Combien de temps ça va durer, ça reste à voir. Je n'oserais pas faire de promesses ou de prédictions.
Non, on ne peut pas de toute manière, j'ai l'impression.
Hein? Vraiment
non,
pas.
Non.
Un petit mot en terminant, M. Larochelle, sur le sommet de l'OTAN-Turquie qui va avoir lieu mardi et mercredi de cette semaine. Est-ce qu'il faut s'attendre à un grand flattage de dos de Donald Trump comme on a vu au G7 et tout le monde va tenter d'être ami avec lui?
Probablement. Il y a Zelensky aussi là, qui a besoin d'aller chercher de l'armement pour arrêter les drones et les missiles russes là, sur l'Ukraine. Mais c'est sûr que les gens vont être là pour essayer de faire en sorte, parce que Trump menace toujours là, de quitter l'OTAN. Alors, il veut être le centre de l'attention mondiale. Il va sûrement vouloir continuer de le faire. Et puis, les dirigeants internationaux commencent maintenant à comprendre comment le contrôler. On l'a vu lors de plusieurs sommets récemment. Ils ont, notamment du G7, là, Macron s'était arrangé pour inviter Trump à un grand dîner, là, un grand souper au château de Versailles pour le forcer à rester pendant tout le sommet. Je ne sais pas si le président turc va lui aussi lui offrir un grand repas, mais c'est évident que là, les dirigeants internationaux savent maintenant quoi faire pour le calmer. Et puis, évidemment, ils vont tout faire pour que Trump ne fasse pas d'esclandre. Mais bon, on peut pas savoir ce qui va se passer avec lui, mais oui, ils vont sûrement jouer le même petit jeu qu'ils jouent habituellement avec lui. Et lui va faire en sorte que tous les médias s'intéressent à ce qu'il dit. Puis là, il y a toute la question autour du football, là, du soccer.
Il a dit ce matin, j'ai appelé le président de la FIFA, j'ai fait retirer le carton rouge, j'ai regardé la reprise vidéo, Pascal, ce n'était pas un carton rouge. Il a dit après ça, je m'y connais rien en soccer, mais lui, il le savait.
Ça, ça me fait capoter. Ouais. Là. Tu peux pas t'ingérer dans le sport. Même dans les guerres mondiales, on essayait de sécuriser ça.
Oui, mais c'est qu'il veut toujours attirer l'attention sur lui, là. Il va sûrement faire la même chose en 40 sur qui. Et puis, bon, on va voir ce que ça va donner, mais c'est clairement l'Ukraine qui devrait être le thème principal. Et aussi le pourcentage d'investissement que chacun des pays doit mettre maintenant pour satisfaire aux demandes de l'OTAN. Et c'est dans ce contexte-là, sûrement, que le premier ministre Carney là, va annoncer là, l'octroi de, ou l'entente, en tout cas pas l'entente, mais la décision du gouvernement canadien pour le pays ou la compagnie ou les compagnies qui vont obtenir le contrat des sous-marins.
Oui, exactement. C'est une compagnie allemande là, qui les a obtenus. Ouais. Oui. Monsieur François Larochelle, ex-diplomate du Canada au Liban, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé.
C'est moi qui vous remercie.
Good. Je vous souhaite une excellente journée. On se reparle bientôt.
Allez, au revoir.
Merci. Au revoir. François Larochelle, ex-diplomate du Canada au Liban. Comme nous, Pascal, il n'y a pas une grande confiance envers Israël.
Non, puis il y a la crédibilité pour l'évoquer.
Exactement. Là, on a bien rigolé lorsqu'on a posé cette question-là. En passant, c'est ce soir 20h en direct de Seattle que les États-Unis affrontent la Belgique. Donc, ça va être le match à suivre à la Coupe du monde aujourd'hui. À 15h, c'est le Portugal contre l'Espagne. Est-ce que ce sera le dernier match de Ronaldo en Coupe du monde? Il a dit que c'était sa dernière Coupe du monde.
Oh, et... ça va être très chaud, ça
exactement.
Veut dire,
et du côté américain, bien évidemment, on va surveiller le joueur Follarin Balogun. C'est lui qui s'est fait retirer son carton rouge. C'est lui qui va jouer. C'est un des meilleurs joueurs des États-Unis. Et d'ailleurs, Donald Trump, tantôt, qui a dit « Ah, j'adore Harry Kane de l'Angleterre. J'adore aussi Lionel Messi. » Imaginez si un de ces deux joueurs-là avait été suspendu. Comment ça aurait terni le tournoi. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé le président de la FIFA. La Belgique qui est allée en appel, mais ça fonctionnera pas.
Ça en invente, là.
Ah oui, exactement. Donc, ça va être très particulier comme ambiance
mais
ce soir 20h.
Mais je trouve qu'il pousse les limites d'où la politique peut s'ingérer.
T'as tellement raison.
Aussi stupide et un peu loufoque que ça paraisse en ce moment, moi, je le prends au sérieux.
Ben oui!
Qu'un président fasse ses
appels. Ah, moi, là, je ne comprends pas comment on peut accepter qu'un président parle au président de la FIFA puis qu'après ça, il y a une décision qui soit rendue. Peu importe si la FIFA serait revenue sur sa décision... Juste le fait que Donald Trump ait parlé avec le président de la FIFA, ça crée scandale parce que la Coupe du monde, premièrement, est aux États-Unis. Mm-hmm. États-Unis, Mexique, Canada. Mais tous les matchs des Américains sont aux États-Unis. Alors, il y a un côté très politique à ça. Et le sport doit toujours se détacher de la politique. Tu sais, Donald Trump est même allé jusqu'à dire « Cet arbitre-là a un mauvais pedigree. Il a pris des mauvaises décisions dans sa carrière. C'est pour ça que j'ai appelé. » Tu sais, là, ça fait plus de sens. Là. J'ai écouté cette conférence de presse surnaturelle ce matin. Oui. Toujours surnaturelle avec Donald Trump, de toute façon, mais là, ça l'était encore plus. On jasait de Coupe du monde. Alors, bien hâte de voir... comment les spectateurs vont se comporter ce soir, advenant le cas. Justement, t'as les spectateurs qui prennent pour la Belgique. Là, si les États-Unis gagnent, puis imagine s'ils gagnent sur un but de Balogun, comment on va réagir? Bien hâte de voir, très hâte de voir aussi l'arbitrage qui avait favorisé un peu le Portugal là, face à la Croatie. Donc, hâte de voir comment ça va être contre l'Espagne.
Tu avais détesté ça. Hein? Oh! Tu disais que la vedette là, prenait trop de place.
J'avais
haï
ça.
Il était trop apprécié.
Des rappels. On va à reprise vidéo. On revient. On comprend pas trop ce qui se passe. Ça prend du temps. Ah, c'est ça. J'ai bien hâte de voir tout ça. Donc, 15h Portugal-Espagne, mais surtout 20h ce soir États-Unis-Belgique. C'est le match à ne pas manquer. Pascal, t'es-tu comme moi? Tu s'ennuyais-tu de Farnell Morrissey, notre chroniqueur?
Ben oui, je l'adore. Mais exactement. Il est en politique, donc
il est
on
en
a pas que lui parler de politique.
En plein ça. Mais là, il a fait une petite sortie que, d'après moi, ses amis libéraux n'aimeront pas.
Il a l'air tout souriant. Mais j'ai vu ça la semaine passée.
Ben
je
oui,
me suis dit, Colin, il est fidèle à lui-même, il dit ce qu'il pense.
Il est allé à un podcast du Oui Québec.
Ouais.
Puis il y a du cas, l'indépendance, ça pourrait être une option. Mais là, il se présente pour le Parti québécois ou le Parti libéral?
Il a toujours été très près de ses idées, Farnell Morissette. Il a toujours tenu la ligne directrice pour laquelle il croit dans sa vie.
C'est ça.
Est-ce que ça fait l'affaire d'un parti politique? Parce que c'est supposé de te mettre derrière
les
rangs.
Yannick Marceau a dit ce matin à Farnell Morissette, « Écoute-moi, Farnell, décris de la politique!
» Mais j'ai hâte de l'entendre, il va être en studio.
Ouais, c'est ça. Il est installé, il est là. On fait une courte pause et on jase avec Farnell Morissette, candidat pour le PLQ dans Taschereau. Jusqu'à 14h.